Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sur So Sweet Planet Laurence Fansenbrock. Bonjour.
Bonjour.
J'avais très envie de vous rencontrer, si on peut dire, parce que nous sommes à distance, mais parce que vous travaillez en tant que députée sur un projet de loi, sur une proposition de loi qui me semble très importante et je pense qu'il sera aussi considéré comme tel par la plupart des auditrices et auditeurs de So Sweet Planet. Vous souhaitez que soient interdits en France les thérapies de conversion et vous avez pour cela déposé en juin dernier une proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Donc alors, avant de rentrer beaucoup plus dans le sujet, comment vous pouvez nous expliquer à nos auditrices et auditeurs, pour celles et ceux qui ne seraient pas encore au courant, ce qu'on appelle thérapie de conversion. Même sur le mot, je crois que vous n'étiez pas, l'expression n'était pas forcément tout à fait en adéquation avec cette formulation.
Non, bien sûr, mais justement, vous l'avez donné, en fait, la définition, c'est les thérapies de conversion, c'est l'idée qu'on puisse vouloir changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Alors, évidemment, ça s'adresse surtout au public gay et lesbien et trans, donc, parce qu'on n'imagine pas qu'on puisse vouloir changer l'orientation sexuelle des hétérosexuels, mais donc voilà. Mais par contre, il était important, justement, quand on a commencé les travaux sur la préparation de cette proposition de loi, de trouver une définition plus précise que les simples termes de thérapie de conversion qui laisse supposer qu'effectivement, en thérapie, qu'on puisse soigner les gays, les lesbiennes et les trans de leur orientation sexuelle ou éventuellement de leur identité de genre. Donc voilà, l'objet c'était aussi de définir les choses de telles qu'elles sont. Donc il s'agit de pratiques particulières évidemment, qu'on peut rassembler dans trois, enfin en tout cas retrouver dans trois types de thérapie. Alors par contre, je vais utiliser le terme de thérapie parce que c'est plus simple pour le.
Oui, bah, moi aussi dans l'interview, coup j'ai repris ce.
Bien sûr. Donc, il y a dans un premier temps les thérapies religieuses, dites religieuses, qui concernent les trois principales religions monothéistes. Alors, je reviendrai sur le sujet. Ensuite, il y a les thérapies médicales. Et moi, ce que j'appelle, ou ce qu'on peut appeler les thérapies sociales, sociétales, c'est-à-dire l'idée que ce sont en fait les parents qui sont les premiers vecteurs de ces thérapies de conversion, puisque ce sont eux qui, bien souvent, dirigent leurs enfants, qui vers un prêtre, qui vers un imam ou vers un psychiatre, ou enfin voilà.
C'est moins souvent une démarche que l'on fait de son plein gré. C'est la pression de l'extérieur qui amène à.
Alors disons qu'il y a des gens qui, enfin on peut le comprendre, notre société n'est pas vraiment encore tout à fait prête à accueillir toute la communauté, voilà. Et donc il arrive que en fait de leur plein gré, finalement certaines personnes qui se questionnent et qui se demandent si c'est normal de ressentir les sentiments ou les attirances qu'elles ont pour les personnes de leur sexe. Et certains en fait sont tellement troublés par leur éducation familiale et religieuse qu'elles ou qu'ils cherchent en fait justement, enfin en tout cas viennent à se poser la question de savoir s'il est possible d'un retour en arrière et finalement de rentrer dans les normes des textes religieux. Donc ça arrive, c'est à la marge. Et bon, bien souvent, malheureusement, ils sont encore plus déçus puisque finalement, ils se rendent bien compte qu'ils sont incapables de changer cet état de fait.
Oui, c'est pas très concluant, on va en reparler aussi. Alors, lorsqu'on lit la communication que vous avez publiée le 11 décembre 2019 avec Bastien Lachaud, dans laquelle Bastien Lachaud, avec qui vous avez mené tout ce travail jusqu'à cette proposition de loi. Donc, cette communication dans laquelle vous mentionnez quelques-unes des pratiques qui vous ont été rapportées lors des auditions. Donc là, c'est consternant, hein, et on voit bien qu'il y a urgence à faire quelque chose. Vous citez, par exemple, un homme qui a dû subir 8 exorcismes dans sa jeunesse du fait de son homosexualité. Vous citez des femmes lesbiennes qui ont dû subir des excisions. Vous citez de jeunes homosexuels. Il y a plusieurs cas qui ont été invités par leur famille à quitter la France pour faire le djihad auprès de groupes salafistes dans le but de se laver de ses péchés. Mmh. On trouve aussi des traitements par électrochoc, de la manipulation mentale et j'en passe. Et vous dites que toutes les victimes auditionnées reconnaissent qu'elles ne permettent pas ces thérapies, qu'elles ne permettent pas de modifier l'orientation sexuelle des participants, mais contribuent en revanche à accentuer leur souffrance.
Alors, bien sûr.
C'est étonnant que dans un pays comme la France, au XXIe siècle, où l'on a tellement de lois pour tout, il y a tellement de gens qui se plaignent qu'on a trop de lois, que ce genre de pratique puisse exister et prospérer à ce point, puisque là, en plus, visiblement, ça prend de l'ampleur. Mmh. Est-ce qu'il y a eu un angle mort jusqu'à aujourd'hui sur ce sujet?
Alors, je voudrais revenir juste sur le, parce que vous évoquez les excisions qu'ont subies certaines lesbiennes. En fait, ce sont des excisions qui ont été pratiquées à l'étranger. C'est-à-dire, ça concerne principalement les jeunes femmes musulmanes, enfin, les lesbiennes musulmanes, qui sont sous un prétexte caché, renvoyées en fait entre guillemets ce que elles-mêmes ou eux-mêmes appellent au bled, et où les excisions sont pratiquées. Donc, en fait, c'est pas sur notre territoire, hein, mais c'est autorisé. C'est en tout cas provoqué par les familles, par les parents qui les renvoient dans leur pays d'origine pour justement que soit pratiqué ce genre d'horreur. Alors, après, vous évoquez l'arsenal législatif et le reproche qu'on peut faire justement à ce qu'il y ait déjà beaucoup de lois en fait sur qui régissent notre République. Mais effectivement, il y a dans le code pénal déjà quelques infractions qui s'approchent des thérapies de conversion, alors qu'on peut par exemple parler de l'abus de confiance, du harcèlement moral, alors du harcèlement sexuel également. Mais le problème, c'est que ces infractions ne ciblent pas vraiment complètement les thérapies de conversion. Donc, il a semblé rapidement nécessaire de prévoir en fait une nouvelle infraction, un délit spécifique justement, donc qui concerne à donc prévoir et réprimer donc les thérapies de conversion.
Enfin, c'est étonnant qu'aujourd'hui, en 2020, on n'en soit que là, j'ai envie de dire.
Alors,
Qu'il est...
c'est
Parce que
étonnant, mais en même temps,
ça
c'est un sujet un peu à la marge, pardon?
existe depuis longtemps, visiblement.
Alors, disons que quand moi j'ai été sollicitée sur les réseaux sociaux pour légiférer sur le sujet en fin 2017, début 2018, je savais qu'il y avait un sujet depuis de très nombreuses années de l'outre-Atlantique ou aux États-Unis, voilà, depuis les années 50, mais a fortiori depuis les années 70, c'était carrément une politique en fait qui était voulue de mettre en place ces pratiques, ces thérapies de conversion. Et en France, c'est arrivé un peu plus tard, on va dire. Enfin, en tout cas, le mouvement s'est vraiment révélé dans les années 90-95. Alors, ce sont des groupes se réclamant religieux qui sont, je pense notamment à l'association Courage et Torrent de Vie, qui s'adosse justement à ce qui se passe aux États-Unis avec les mêmes associations. Et donc, c'est un mouvement évangélique qui a tendance à se répandre sur le territoire national et à vouloir donc mettre en place des sessions de guérison de l'homosexualité, enfin, avec des pratiques qui parfois rappellent des heures un peu obscures de notre histoire. Je pense notamment, enfin, des fois même au Moyen-Âge, en fait, hein. Quand on parle de, enfin, vous l'avez évoqué, les exorcismes, enfin, c'est quand même un peu, on a l'impression d'être dans le film Au nom de la rose, enfin, voilà, c'est un peu compliqué à imaginer. Enfin, on est tout à fait capable de faire des choses extrêmement très belles dans ce pays, mais aussi, voilà, à la marge, il y a encore des gens qui, sous couvert de textes religieux, se permettent ce genre de pratique.
Alors, pour arriver à cette proposition de loi, vous avez réalisé des auditions. Quelles personnes ont été auditionnées? Parce que ce n'est pas simplement des personnes qui sont venues témoigner d'avoir été elles-mêmes victimes ou d'être passées par des thérapies de conversion. Vous avez apparemment réalisé des auditions auprès d'un public assez large.
Alors en fait, effectivement, j'ai obtenu de la part de mon groupe une mission d'information, une mission flash pendant 3 mois. Et on m'a demandé avec qui de l'opposition j'aimerais travailler. Donc j'ai tout de suite pensé à Bastien Lachaud. Et en fait, oui, effectivement, en 3 mois, on a auditionné énormément de monde. En fait, ça m'a pris énormément de temps. Et enfin, tout ça cumulé avec les autres travaux législatifs, évidemment. Et en fait, donc oui, effectivement, comme vous le dites, il y a eu des victimes, il y a eu des témoignages, il y a eu aussi les institutions. On a auditionné la MIGILUD, qui est la mission interministérielle qui scrute les dérives sectaires. On a aussi auditionné le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. On a aussi procédé à des auditions de juristes pour avoir un avis d'expertise sur la rédaction de ce texte. Et donc aussi, et là, ça a été un moment un peu, ça a été des moments un petit peu difficiles, on va dire, d'entendre justement les associations comme Courage ou Torrent de Vie qui continuent malgré le mal que cela peut faire à notre jeunesse, qui continue à prôner les sessions de guérison, en ayant l'impression qu'en fait ils réalisent l'œuvre, alors peut-être pas l'œuvre de Dieu, mais en tout cas l'œuvre des textes sur lesquels ils s'appuient. Alors c'était vraiment des auditions, enfin, hyper, pas émouvante. Enfin, si, par exemple, j'ai oui, reçu beaucoup d'émotions en auditionnant certaines victimes, notamment, je pense toujours à Benoît Berthe, qui, enfin, grâce à lui d'ailleurs, j'ai compris finalement ce que pouvait être la foi, parce que enfin, c'était une notion finalement pour moi un peu vague, et de la façon qu'il a eu d'en parler en fait au cours des auditions, j'ai ressenti en fait ce que c'était que la foi et la tristesse qu'on pouvait en ressentir, la désolation en fait d'être rejeté finalement parce qu'on a une orientation sexuelle différente de la majorité de nos concitoyens. Et voilà, enfin, ça a été des moments, donc celui-ci très émouvant et qui m'a beaucoup marqué, mais aussi des moments un peu d'horreur en fait, quand on entend des victimes parler, comme vous le disiez aussi, d'électrochocs, d'excisions, enfin, ce sont des vies abîmées, enfin, parce qu'il ne faut pas oublier que, bon, non seulement déjà ça ne guérit rien, hein, ça ne, certainement pas de l'homosexualité, de l'identité de genre. Mais en plus, beaucoup d'entre eux ont eu tendance à se replier sur eux-mêmes, à s'isoler, à déprimer. Certains nous ont parlé de tentatives de suicide, ou ont relaté la disparition d'amis qui, pour le coup, ont malheureusement franchi le pas et ont mis fin à leur jour. Mais aussi des traces physiques et psychologiques et psychiques pour toute la vie. Enfin, par exemple, je pense à ce jeune homme qui avait subi les électrochocs et qui était dans sa jeune enfance très proche de sa sœur et qui nous disait qu'en fait, à cause des électrochocs, il avait perdu une grande partie de sa mémoire de son enfance. En fait, il a perdu toute son enfance, en fait. Et pour lui, c'était vraiment une souffrance. Enfin, il y a eu plein de souffrances dans sa vie, en plus. Enfin, c'était vraiment un témoignage très poignant. Voilà, donc on se rend bien compte que non seulement ça ne corrige rien, mais qu'en plus, ça induit des douleurs psychiques et physiques complètement incroyables, énormes.
Est-ce que les personnes de ces associations qui pratiquent ces thérapies ne peuvent pas vous reprocher qu'en fait les personnes qui sont venues témoigner sont celles qui se considéraient comme victimes? Est-ce qu'elles n'ont pas, elles, de leur côté, des exemples de personnes qui, entre guillemets, seraient revenues dans le droit
Ah
chemin,
oui, mais alors ça, oui, ça,
d'expériences
justement, oui, bah,
concluantes?
parlons-en, en fait.
Oui,
Il y a eu tout un
parfait.
mouvement aux
Oui.
États-Unis des ex-gays, par exemple, qui faisaient des grands shows à la télé
Oui,
en
on a vu,
disant,
il y a eu un documentaire très, très intéressant
oui.
sur Arte France 5, je ne sais plus, il y a à peu près un an là-dessus.
Ah bah c'était suite au livre de Timothée Droglaudre et Jean-Louis Adenauer, les deux jeunes journalistes.
Ça, c'est en France, mais il y en a eu un aux États-Unis aussi,
Ah oui,
justement
d'accord.
avec
Ok,
toutes
donc vous
ces
parlez de
grandes
celui fait
crèches.
par Arte, oui. Oui, mais en fait, même ces ex-gays, finalement, enfin, ces pseudo-ex-gays en sont revenus aussi et ont fait leur mea culpa un peu plus tard en disant qu'effectivement, ils avaient été contraints et forcés par ces associations à donner ce genre de message, alors qu'en fait, ils
Oui.
reconnaissaient qu'effectivement, ils étaient toujours gays, en fait. Enfin, voilà.
Dont l'un des responsables d'une des plus grosses
Oui.
associations aux États-Unis. Oui, ça, c'était assez fort d'ailleurs dans ce documentaire, ce passage.
Oui, c'est vrai.
Et puis alors, il y a un autre aspect dont on parle souvent moins, c'est les mineurs, parce que finalement, c'est souvent à ce moment-là que les parents s'inquiètent, entre guillemets, d'une orientation sexuelle qui commence à s'affirmer et qui ne rentre pas dans la norme communément admise, et qui à ce moment-là peuvent prendre des décisions, alors que c'est le moment justement fragile, quoi, de
Ce serait
formation de
plutôt
la
le moment de
personnalité.
l'accompagnement, finalement.
Oui.
Et l'accompagnement qui est choisi n'est pas le bon, en fait, parce qu'on leur pointe du doigt le fait que, alors parce qu'ils sont, parce qu'on ne peut pas réduire une personne à sa sexualité, mais en tout cas, ce qu'ils font, ou leur attirance, ou leurs sentiments, sont néfastes pour eux-mêmes. Alors, ça, on parle de mineurs, oui, parce que voilà, justement, c'est souvent à cet âge-là, enfin, je veux dire, entre 9, 12, 15 ans, où on prend conscience de son orientation sexuelle, de ses désirs, de ses attirances. Et quand les familles s'en rendent compte, alors ce sont souvent des familles évidemment très très croyantes, très pratiquantes, parfois investies d'ailleurs dans les milieux religieux et qui ne supportent pas l'idée que la chair de leur chair puisse commettre ce qui leur semble à eux être l'irréparable, c'est-à-dire contrevenir par exemple. Enfin moi c'est toujours quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre, pourquoi il n'y a pas de réécriture de certains articles de catéchisme, parce que par exemple l'article 2357 du catéchisme enfin, donne une définition de l'homosexualité incroyable. Enfin, ce sont des pratiques déviantes. Enfin, voilà. Et donc, en fait, quand on est issu de familles comme ça, très traditionnelles, très traditionnalistes, pardon, on peut effectivement vivre des moments hyper douloureux parce qu'il y a déjà le rejet de la part de la famille, mais aussi de la communauté religieuse à laquelle on appartient. Et quand on a la foi et quand c'est son éducation, parce que c'est les bases aussi de notre société, ce qui fait que l'homosexualité est si mal acceptée dans notre société, c'est justement parce que elle est fondée, elle est basée sur, c'est une société judéo-chrétienne, donc avec une description d'homosexualité qui est vraiment en dessous de tout, quoi. Donc, je pense que le message qu'il faudrait envoyer aux parents, d'ailleurs, c'est l'intérêt aussi de cette proposition de loi, c'est faire comprendre qu'en fait, ce qu'ils font est interdit, que accompagner son enfant, par contre, ça c'est tout à fait possible, et d'ailleurs, c'est même encouragé. Enfin, il faut, ben, d'ailleurs, il faudrait même, en fait, que les religieux, que les médecins, que les familles accompagnent les enfants ou les adolescents, les jeunes adultes dans leur apprentissage de leur sexualité, parce que c'est ce dont ils ont besoin, en fait, enfin, d'avoir des réponses, et pas juste une opposition, des blocages, et puis au contraire, être considéré comme le paria de la famille et à qui parfois on refuse. Par exemple, un jeune nous expliquait que ses parents avaient refusé qu'il mange à la table de sa sœur et qu'il serait maintenant hors de question qu'il assiste aux repas familiaux. Enfin, donc du coup, il mangeait dans sa chambre tout seul. Enfin voilà, donc c'est plein de choses comme ça que l'on doit mettre un stop. Évidemment, ça. Ce serait trop beau si ça le permettait, mais en tout cas mettre un frein. Parce que malgré tout, je pense pas que ça arrête. Enfin, c'est comme interdire le vol. C'est pas parce qu'on interdit le vol qu'il n'existe plus. Donc là, c'est pareil. Interdire les thérapies de conversion, c'est juste en tout cas un signal que il me semble symboliquement important d'apporter aux familles, mais aussi aux religieux et aux médecins, en leur disant attention, vous êtes en train de faire du mal en fait à vos enfants. Et voilà. Donc et la société reconnaît maintenant cette infraction et elle est interdite. Et enfin, en tout cas, les faits que vous commettez sont interdits et sont punis par la loi.
Oui, parce que quelquefois on croit que la loi devrait suivre l'évolution des mentalités, mais en fait on se rend compte quand même, avec notamment quand il y a eu le PACS ou le mariage pour tous, que quand même ça contribue aussi à faire évoluer les mentalités parce que les médias s'emparent du sujet, ça permet de banaliser un peu et ça permet que ça devienne un peu plus entre guillemets normal. Mais ce que je trouve étonnant aussi dans ce que j'ai lu dans la mission Flash et dans ce que j'ai étudié à côté pour préparer cette interview, c'est qu'il y a toujours cette notion qui revient de ce qui est considéré par toutes les personnes qui pratiquent ça comme contre-nature. Et pourtant, maintenant, bon, ça fait des années que tout ça, ce n'est plus considéré comme une maladie. Ça a été démontré par A plus B que dans la nature, dans les espèces animales, on retrouve l'homosexualité. Donc, en fait, ce qu'on appelle contre-nature et on lutte contre quelque chose que l'on désigne contre-nature, et en fait, on est contre-nature en allant contre ce que la nature fait, non?
Oh bah voilà, pour le coup, si je peux me permettre ce trait d'humour, mais vous prêchez une convaincue, enfin là, effectivement, enfin. Mais pour revenir sur le côté législatif, oui, effectivement, vous avez raison. Enfin, notre société, elle est comme elle est, mais le problème des mentalités, c'est que si on veut les faire un petit peu changer ou en tout cas avancer, c'est justement grâce à l'inscription en fait dans la loi de nouveaux droits en fait. Enfin, justement, comme le PACS. Finalement, maintenant, tout le monde s'en fiche du PACS. Le mariage pour tous, c'est pareil.
Oui, pourtant, ça devait mettre la société sans dessus dessous.
Eh ben non, parce que ben non, effectivement. Non, 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 non. D'ailleurs, c'est comme quand on a parlé de la PMA. Enfin, on prenait justement l'exemple des pays voisins européens qui ont légiféré sur les sujets depuis maintenant longtemps et pas ben, longtemps, parce que moi, ma plus grande fille a maintenant 20 ans. Alors vous imaginez, donc c'est pas récent. Et voilà. Et pour autant, la Belgique, l'Espagne, tout ça ne se sont pas effondrés. Donc, je pense que enfin, en tout cas pour la PMA, je pense que c'était peut-être un dernier baroud d'honneur de la part de la Manif pour tous, parce que même s'ils ont été très visibles, très entendus et très écoutés d'ailleurs par le président Hollande à l'époque, je crois que maintenant en fait leurs arguments sont un peu, enfin d'ailleurs ils en sont un peu à court en fait. J'ai eu l'occasion de faire un plateau avec Madame de La Rochère il y a quelque temps, maintenant peut-être 2 ou 3 mois, et bon, enfin voilà, c'est toujours un peu la même ritournelle qu'elle nous sert et sans vraiment, enfin il joue sur la corde sensible de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais alors évidemment, pour moi, c'est facile de dire que mes enfants vont bien, ce sont les miens, et éventuellement, je vous raconte ce que je veux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des études anglo-saxonne, américaine et donc britannique, qui démontre sur des cohortes importantes que les enfants issus de familles homoparentales vont très bien. Nos enfants vont très bien. Donc,
c'est ça que je trouve toujours étonnant quand il y a ces discussions, c'est qu'en fait, souvent, les personnes qui sont contre véhiculent des arguments comme si on était en vase clos et qu'il n'y avait pas des pays qui avaient déjà avancé sur ces sujets, un peu plus que nous, qui aient un peu plus de recul. Et on occulte complètement ça. Et je me souviens au moment des débats du PACS et aussi par rapport à l'homoparentalité, où il y avait déjà des livres, des documentaires, des études qui avaient été faites à San Francisco et au Québec, qui étaient aussi pas mal en avance sur nous, au Québec, et où en fait on voyait qu'avec des adultes et jeunes adultes donc, qui avaient été élevés par des parents de même sexe, ben, qu'il n'y avait pas de problème. Il y avait même, au niveau de la personnalité, on notait certains points qui étaient plus avancés que chez des jeunes adultes élevés par des parents hétérosexuels, par rapport à justement une certaine construction, par rapport aux agressions qu'on peut vivre dans la société, à l'école, ou tout
oui,
ça.
Exactement, oui. Ben, c'est clair. Ben, c'est sûr que, en fait, quand on a la démarche en couple homosexuel d'avoir des enfants, on sait pertinemment qu'on risque d'exposer ses enfants au regard un peu négatif de la société. Donc en fait, on fait en sorte de le protéger et parfois de devancer un peu les choses et de dire clairement à la société comment est construite notre famille. Moi, je repense toujours en fait au moment où j'ai inscrit ma plus grande fille à l'école primaire. Donc j'avais pris rendez-vous avec la directrice et en fait voilà, je lui dis clairement, je lui dis voilà, donc je vais inscrire donc mon enfant dans votre établissement. Bon, il faut quand même que vous sachiez que ma fille donc est élevée par deux mamans. Et en fait, dans la mesure où c'était dit aussi simplement, enfin aussi parce que la directrice était très ouverte d'esprit, ça aide évidemment beaucoup, mais on n'était pas obligé de s'y attendre dans un petit village de 1000 ou 1500 habitants. Et en fait, voilà, donc on a discuté du sujet très ouvertement et on a eu la même démarche ensuite avec la nounou et ainsi de suite. Enfin, je pense que ce qu'il faut, c'est ne pas laisser de place au doute, à la critique, dans la mesure où de toute façon vous dites. Enfin, vous exposer parce que c'est un terme un peu fort, mais vous dites les choses, vous assumez en fait les choses, et bien finalement les gens n'ont plus rien à dire puisque vous avez déjà tout dit vous-même en fait. Ça c'est important.
Dès 2015, un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme appelait à l'interdiction des thérapies de conversion, soulignant l'inquiétude grandissante face à des pratiques contraires à l'éthique, dénuées de fondements scientifiques, inefficaces et pour certaines d'entre elles constitutives de torture. Donc le 1er mars 2018, le Parlement européen a adopté une motion, donc je cite ce que j'ai lu sur la proposition de loi, a adopté une motion condamnant les thérapies de conversion et appelant les États membres de l'Union européenne à légiférer pour les interdire. Est-ce que l'on sait si tous les États membres ont entrepris ce travail ?
Bah non, alors vous imaginez bien que par exemple des pays comme la Pologne, la Hongrie... vont certainement pas s'y atteler tout de suite, mais voilà, il y a déjà Malte en fait qui a légiféré, donc ils ont déjà une loi qui interdit les thérapies. L'Angleterre s'y attelle aussi. Alors l'Allemagne l'a fait il y a pas très longtemps, mais il me semble un petit peu timidement en ne s'attachant que finalement qu'à protéger les mineurs. Alors, c'est déjà très bien parce qu'on sait que c'est quand même une population hyper fragile. Mais bon voilà, ils se sont arrêtés à la minorité. Je regrette un petit peu. Alors et voilà. D'autres pays s'y sont mis aussi ou alors sont en train d'en discuter. Et nous, donc la France, le pays des droits de l'homme, on n'a toujours pas de législation donc, pour interdire ce genre de choses.
Oui, donc il est temps.
Il est grand temps.
Avant d'arriver à ce texte de cette proposition de loi, qu'est-ce qui se passe en amont en fait ? Quel est le point de départ et ensuite quel est le travail jusqu'à aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que ça prend du temps, mais on peut expliquer aussi pourquoi ça prend du temps.
Alors le point de départ c'est donc un jeune sur Twitter qui me demande donc de travailler sur le sujet, donc moi je lui fais quand même part de mes doutes parce que j'ai une connaissance du sujet donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure outre-Atlantique, mais qu'il ne me semblait pas qu'en France on ait vraiment ce genre de même problématique. Et alors en fait bon comme il était un peu insistant et puis que je me dis je vais pas non plus les conduire, donc voilà, j'ai fait quelques recherches rapides sur le moteur de recherche classique et là je me rends compte qu'effectivement il y a quand même des associations se vantant d'être des pseudo-religieux qui proposent justement des sessions de guérison. Alors là, je me dis, oui, effectivement, il y a un problème, en fait. Mais bon, comme j'ai pas vraiment beaucoup de chiffres, j'ai pas beaucoup de choses, je continue, en fait, mes investigations, tout en parallèle avec, bien sûr, avec mon autre travail parlementaire. Et au final, en off, on va dire, j'auditionne des victimes, j'entends des témoins, je reçois pas mal d'associations. Et puis, dans l'actualité aussi, il y a des choses qui percutent un petit peu mes travaux, comme par exemple des sessions qui ont eu lieu en Guyane. Donc, il y avait trois religieux, enfin évangéliques, qui justement avaient proposé un séminaire donc en Guyane. Et puis ensuite, il y a le collège Stanislas à Paris. Alors, c'est un collège privé sous contrat avec l'État qui, les week-ends, en fait, proposait justement pareil des sessions de masculinisation, de virilisation, de guérison. Enfin, donc ça, c'est, enfin, même si les week-ends, en fait, période à laquelle se déroulaient ces sessions de regroupement, on va dire, les élèves n'étaient pas présents. Malgré tout, je me demande comment on peut ressentir quand on est un jeune adolescent de 11-12 ans, l'idée, en fait, quand on est homosexuel, qu'on découvre sa sexualité et que on sait que dans son établissement, là où on va être entouré de sécurité et de plein de valeurs, eh bien, dans ce même établissement, les week-ends vont se dérouler ce genre de session. J'imagine le trouble, en fait, de ces enfants et ça m'a paru, moi, révoltant, en fait, qu'on puisse faire ce genre de choses dans ce genre d'endroit. Donc, à l'époque, voilà, j'avais aussi alpagué, enfin, en tout cas, alerté le ministre Blanquer sur cette question, qui donc a fait en sorte que les choses changent. D'ailleurs, comme tout récemment avec les manuels scolaires là dont j'ai parlé. Enfin là, on touche plus à l'homophobie, mais je fais une petite digression. Mais voilà, donc en fait, il est important qu'on ait conscience que sur notre territoire, voilà, il se passe quand même des choses pas très reluisantes et qu'il est effectivement grand temps de mener le combat, ou en tout cas de légiférer.
Alors l'article premier de cette proposition, l'article premier crée une infraction spécifique dans le code pénal pour condamner les pratiques, comportements et propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre vraie ou supposée d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale. Ça m'a posé question ce « et ». Est-ce que l'infraction n'est constatée, n'est
vous auriez
retenue
préféré un « ou »
Non, mais ce que je me suis demandé, c'est est-ce que cette infraction ne sera reconnue que s'il y a une altération de la santé physique et mentale? Parce que s'il n'y a pas d'altération physique et mentale, ça pourrait être pratiqué?
C'est très juste, votre remarque. C'est très juste. Et du coup, je ne vous cache pas que comme on est en pleine réécriture, parce qu'en fait, on est en négociation avec le gouvernement et le groupe,
Je vous
effectivement.
entends pas bien parce qu'il y a la
Ah!
main.
Oui, effectivement, pardon. Oui, donc je disais, effectivement, votre remarque est très judicieuse et je me dis qu'on devrait peut-être effectivement revoir un petit peu la rédaction de cette phrase. Et c'est rigolo parce que, enfin, c'est rigolo, pas très, mais c'est amusant de voir qu'au fil du temps, en fait, les associations, les gens me contactent en me disant, vous savez, là, en fait, il y a un petit souci avec les peines, il y a un petit souci avec ça. Et moi, je suis en fait très friand de ce genre d'intervention parce qu'au final, l'idée, c'est de faire un texte le plus juste, le plus propre possible. Donc là, ben voilà. Donc en fait, grâce à vous, nous allons certainement devoir revoir cette phrase. Mais c'est vraiment pas un problème, en fait. Il n'y a pas de souci.
Le chapitre 2, alors là, c'est vraiment on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais pour moi, je trouve ça tellement important parce que ça porte sur l'éducation des enfants à l'école. Mais
Ouais.
là, bon, bah, évidemment, faut-il encore que tout le monde en soit arrivé à l'idée que ce n'est pas quelque chose d'anormal, le fait qu'on ne soit pas cisgenre, en fait, parce que sinon, on peut exclure aussi une partie de la population. Donc, cisgenre, c'est-à-dire qu'on est en accord avec notre genre
De naissance,
physiologique,
oui.
sexuel, voilà. Et donc, je lis, généralement à destination d'un public jeune, ces thérapies de conversion ont des effets dramatiques et durables sur la santé physique et mentale des personnes qui les subissent, dépression, isolement ou encore suicide. Or, c'est à l'école et tout au long de leur parcours scolaire que nos enfants doivent être mis en confiance, notamment dans le cadre des enseignements portant sur la sexualité, pour s'interroger sans crainte sur leur orientation sexuelle ou sur leur identité de genre. Alors ensuite, page 11, ça c'est dans la mission Flash. Vous dites pourtant dans un rapport de 2017, le défenseur des droits s'alarmait de ce que 25% des établissements scolaires ne respectaient pas leurs obligations en termes d'éducation sexuelle. Pendant son audition, il a également souligné que lorsque ces enseignements ont lieu, ils traitent essentiellement les questions relatives à la biologie et aux infections sexuellement transmissibles. La lutte contre les discriminations semble donc peu abordée par ces enseignements. Donc là, est-ce que vous avez bon espoir qu'il y ait un petit peu plus de, qu'il y ait une avancée contre les discriminations?
Mais vous savez, déjà, en fait, les enseignants ont déjà parfois du mal à boucler les programmes. Donc, après, voilà, ils peuvent se réfugier aussi dans ce principe, en fait, en justifiant qu'ils aient un peu zappé, ce qui est le cas souvent, notamment dans les établissements privés, même quand ils sont sous contrat avec l'État, en disant, oui, mais bon, là, cette année, il y avait un programme, voilà, on a essayé de coller au plus juste. Donc, bon, après, vous savez, ce texte, il n'a pas vocation à révolutionner la société, c'est juste, il y a une portée symbolique importante pour les victimes, ça c'est souvent ce qu'elles nous ont répété, et aussi dire aux victimes justement, maintenant on va vous prendre en compte, quand vous irez en commissariat ou en gendarmerie, vous pourrez donc déposer plainte pour des faits exacts. De ces plaintes, on ressortira justement des statistiques, parce que là, actuellement, ce qu'on m'a reproché aussi, c'était justement d'un manque de chiffres, en fait. Mais comment chiffrer quelque chose qu'on ne peut pas, comment dire, inscrire dans les statistiques, puisque il n'y a pas de code, ça s'appelle un code NATINF. Chaque infraction, en fait, est codifiée. Et en fait, quand vous enregistrez votre plainte, à la fin, donc, quand c'est un vol, je dis n'importe quoi, mais c'est le NATINF 340, et ben voilà, ça rentre dans les statistiques. Mais là, en l'occurrence, comment on peut faire rentrer des statistiques sur un sujet, dans la mesure où on ne peut pas prendre de plainte contre des thérapies de conversion, voilà, ça amène forcément l'absence de chiffres. Alors parfois j'ai tendance à dire que l'absence de chiffres peut évoquer justement un problème, en fait. C'était aussi le cas quand on a eu cette mission d'information, quand on a eu fait ces déplacements en Guadeloupe. Parce que justement, il y avait un gros problème aussi de LGBT-phobie, on va dire, dans les territoires et les départements d'outre-mer. Et l'idée, c'était d'installer justement une ligne d'écoute sur ce territoire pour justement permettre d'évacuer un petit peu la difficulté qu'on peut ressentir quand on est un ultramarin. Et justement, il y avait de très belles actions qui avaient été faites. On avait été reçus par le recteur de Guadeloupe à l'époque et il nous avait fait visiter, là, évidemment, il avait choisi ces établissements, mais en tout cas, des établissements où les choses fonctionnent, c'est-à-dire où les élèves eux-mêmes, on leur a demandé finalement d'être un petit peu les gendarmes de la cour de récréation et tout ça à travers une communication non violente, enfin ce qui me semble être la base de tout de toute façon, et d'intervenir quand par exemple des insultes fusées, parce que finalement la première insulte qu'un garçon ou même une fille éventuellement inflige à son camarade quand il l'embête, c'est t'es qu'un sale pédé. En fait c'est finalement l'insulte la première, la plus simple, alors qu'en fait c'est justement l'homophobie. Et je trouvais cette démarche très très bien d'inclure en fait les collégiens dans l'idée qu'il faille justement changer ses comportements. Et alors pour les insultes, ça reste toujours des insultes, mais celle-ci a en plus un caractère homophobe qu'on ne peut pas nier. Et justement, donc les y travailler. Et au final, l'ambiance qu'on retrouvait dans la cour de récréation, enfin dixit les enseignants, mais aussi les élèves, c'est que finalement il y avait une espèce de tension qui s'était apaisée et ça avait amené des relations plus sereines en fait entre les élèves, alors qu'ils soient hétéro ou homosexuels. Et c'était une très belle démarche. Et je m'étais dit à l'époque, c'est drôle parce qu'en fait on vient en mission ici parce qu'il y a des problèmes, mais au final eux ont déjà peut-être trouvé certaines solutions. Pas tout, parce qu'après il y a aussi la nécessité d'installer un terrain, un maillage associatif, mais je me disais si on pouvait aussi dans l'Hexagone reproduire ce genre d'expérience, ça n'en serait que bénéfique.
Alors, quelles peines sont proposées par cette proposition de loi ?
Eh bien, écoutez, il me semble. Alors, du coup, je vais peut-être la reprendre parce que, comme on est en train de l'arrêter. Oui, donc c'est bien ça. Donc, c'est bien 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Voilà, donc ça, c'est la peine qui est prévue. Enfin voilà, on a essayé de se rapprocher de ce qui se faisait dans le code pénal, justement concernant les violences, concernant le harcèlement, concernant l'abus de confiance. Donc voilà, ça a été fait en concertation aussi avec des juristes. Hein, voilà, j'ai pas la prétention de. Enfin, tout ça, ça a été travaillé. Ça n'a pas été sorti de mon chapeau comme ça. On s'est vraiment attaché à se rapprocher de professionnels du métier pour faire quelque chose qui tienne la route. Oui.
Et est-ce que vous avez rencontré des résistances, des réticences au cours de l'élaboration de ce texte de proposition de loi ? Et si oui, lesquelles ?
Ben justement, de mes collègues parlementaires qui me disaient, mais en fait, Laurence, il y a déjà plein de choses en fait dans le code pénal qui permettent de réprimer les thérapies de conversion. C'est juste que non, pas tout à fait. Donc voilà, la réticence, ça a été ça en fait. C'était qu'il a fallu aussi que, pas que je lutte, mais en tout cas que je force un peu la main du mouvement pour leur faire comprendre qu'en fait, il y avait vraiment nécessité de créer un délit spécifique et que en dehors de la symbolique que réclamaient, on va dire, les victimes, il y a une évidence, une nécessité à créer ce délit.
Est-ce que vous pensez que comment ça se passe entre le moment où vous déposez la proposition de loi, donc c'est au mois de juin, je crois. Déjà, est-ce que vous pensez que le texte sera adopté tel quel, ou est-ce que systématiquement, est-ce qu'un texte n'est jamais adopté tel quel?
Ben c'est rare en fait, hein, parce que chacun, d'ailleurs, enfin vous voyez, par exemple, on en discute toutes les deux, et tout à l'heure vous me pointez du doigt un souci, et vous avez raison de le faire. Et ben par exemple, les collègues députés de la majorité ou de l'opposition vont certainement vouloir bon déjà supprimer les articles, j'imagine, notamment de la part de l'opposition à droite, mais aussi améliorer le texte. Enfin, moi ce que je veux dire, c'est que je fais cette proposition, mais après il faut pouvoir aussi entendre qu'il y a des choses qui ont été oubliées, qu'il y a des choses qui ont peut-être été mal faites. Enfin je veux dire, moi je n'ai pas la prétention d'avoir rendu un travail parfait. J'ai essayé de faire au maximum de ce qui était possible pour coller à la réalité de cette future infraction. Mais maintenant, non, évidemment, je sais pertinemment qu'il va y avoir des amendements et que certains seront retenus, d'autres rejetés. Mais voilà, c'est effectivement le jeu du texte. Donc là, comme vous le disiez, il a été déposé en juin de cette année. Et après une lutte un petit peu rude, surtout ces derniers temps, avec le mouvement et le groupe à l'Assemblée. Il a été décidé qu'elle serait donc discutée courant mois de février l'année prochaine. Alors, je mets
D'accord,
beaucoup,
2020.
beaucoup, beaucoup de guillemets là-dessus parce qu'elle devait déjà être discutée en mai 2018. Et bon, Marlène Schiappa à l'époque m'avait un peu grillé la priorité en reprenant cette semaine parlementaire pour le gouvernement, en fait, pour qu'on discute de son projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles. Et ce qui a entraîné après, avec la crise des Gilets jaunes, avec la crise de la Covid, enfin, tout un tas de raisons, en fait. Enfin, qu'on peut entendre, évidemment, hein. Ça, c'est pas un sujet, hein. Donc voilà. Mais effectivement, c'est très très long. Et une fois que le texte sera discuté à l'Assemblée, alors ça devrait être très rapide, puisque c'est pas non plus un texte très lourd, hein. Il ne contient que quelques articles. Il sera donc ensuite envoyé au Sénat. Et alors, c'est là qu'éventuellement, ça peut être un petit peu plus long, parce qu'il est possible que le Sénat traîne un peu des pieds comment dire, discuter de cette proposition. On connaît la couleur, en fait, du Sénat, et je pense pas que ce soit vraiment, un sujet. Enfin, je vois par exemple Monsieur Retailleau se précipiter sur le sujet. Enfin, voilà. Donc, je pense particulièrement à lui, mais aussi à d'autres, et voilà, en espérant qu'il soit malgré tout quand même discuté avant la fin de ce mandat et revenu à l'Assemblée, et puis finalement promulgué par le président. Mais bon, après, voilà, il
Et
faut.
ça, et donc ça, au minimum, au maximum, ça peut prendre combien de temps
Je n'en ai
avant?
aucune idée. Je ne peux pas vous dire. En fait, quand on voit comment la PMA, la bioéthique, il a fallu lutter aussi pour que ce soit mis au calendrier et pas toujours repoussé comme ça l'a été un temps. Parce que là, l'air de rien, enfin, ça fait un moment, en fait, que moi, je travaille sur ce sujet. Et qu'il y a pas très longtemps, on m'a dit, mais tu sais, la politique, c'est un temps long. Ben, en fait, je peux vous dire qu'effectivement, c'est un temps très, très long, quoi. Enfin, moi, je pensais, en fait, évidemment, c'était un peu idiot de ma part, mais enfin, quand moi, j'ai un problème chez moi, je trouve la solution et je l'applique, en fait. Mais là, en politique, c'est pas encore tout à fait pareil. C'est que il peut y avoir des solutions, mais on prend son temps, en fait, parfois enfin, bon gré mal gré, pour faire traîner un peu les choses ou pas. Enfin, donc voilà. Donc,
Mais il y a
quitte
plus
à,
de monde
enfin,
à mettre d'accord aussi.
pardon?
Il y a plus de monde à mettre d'accord
Ah bah oui, c'est
que
ça,
chez
c'est
vous.
ça. Oui, mais là, effectivement, là, il faut convaincre, bon,
Mais
déjà, les collègues, et puis ensuite, enfin, l'opposition, le Sénat, enfin, voilà, effectivement, ça met en jeu toute une chaîne d'intervenants qui sont pas toujours forcément très enclins à discuter de ce genre de problématiques.
Et le 25 novembre, il y a eu comment on peut appeler, une tribune dans le monde?
Ah oui. Alors c'est une tribune de, alors je sais pas si on
Je
peut dire une
voulais l'imprimer,
association, de rien à
je l'ai.
guérir en fait. Voilà, et ben justement, ben c'est mené par Benoît Berthe, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, une victime de ces thérapies, qui milite, en fait, parce que bon, il y a eu des tergiversations avec le gouvernement qui voulait reprendre dans le texte sur le séparatisme, qui va être discuté bientôt, enfin à la rentrée, qui voulait reprendre donc des éléments de cette proposition de loi, mais en l'occurrence, enfin moi personnellement, et d'ailleurs beaucoup me le disent aussi, il n'y a aucun lien entre le séparatisme et ce dont on parle dans cette proposition de loi. Effectivement, on aborde le sujet religieux, on aborde d'ailleurs les trois religions principales, avec certaines déviances, mais pour autant, il n'y a aucune volonté, en tout cas de la part de ces acteurs, d'être acteurs du séparatisme. Enfin, il y a vraiment aucune raison. Et je trouve ça un peu dommage parce que, enfin, dommage qu'on veuille éventuellement réduire cette proposition de loi à quelques amendements dans le projet de loi du gouvernement, parce que on sait très bien, on l'a vu avec la sécurité globale, que c'est un sujet qui va encore remuer l'opinion publique, qui va remuer également les débats parlementaires. Donc, au risque en plus que finalement on ne prenne que des éléments comme ça à droite et à gauche de cette proposition pour finalement la vider de sa substance et ne laisser que des sujets qu'on ne peut pas mettre dans le sujet du séparatisme, alors qu'en fait mon idée à moi c'était que le groupe de La République En Marche s'accapare de cette proposition de loi, la prenne à son compte, ce qui va d'ailleurs être le cas bientôt, mais j'avais aussi dans l'idée. Enfin, moi je suis un peu utopiste, hein, mais ou
Il
idéaliste,
faut
ou
en fait
enfin,
être en
oui,
politique.
ben oui, il en faut, mais des fois du coup c'est plus douloureux forcément. Et
Oui, mais
donc,
c'est cette phrase d'Oscar Wilde, il faut au moins viser la lune pour espérer
ouais,
atteindre les
les
étoiles. Hein.
étoiles, ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Et en fait, dans mon idée, moi je m'étais dit, ce qui serait vraiment génial, c'est qu'on propose en fait cette proposition de loi à la cosignature à tous les groupes en fait. Alors, je me doute bien que certains groupes à droite n'auraient pas cosigné, mais voilà, nous en tout cas, on l'aurait proposé. Je sais très bien que la France insoumise, les socialistes, le GDR, tout ça étaient prêts en fait, enfin sont prêts éventuellement à travailler main dans la main sur le sujet parce que c'est un sujet qui remporte un grand consensus. Donc en fait, la discussion autour de cette proposition de loi peut être très courte en fait dans l'hémicycle puisque finalement, voilà, elle aura part à la marge des corrections comme vous l'avez fait tout à l'heure, mais sinon il y a pas à y avoir de débat. Enfin, comment on pourrait refuser que cette proposition de loi soit votée? Enfin, je veux dire, il y a pas vraiment de raison. Et en plus symboliquement, ça aurait été un beau geste parce que depuis le temps qu'on se targue d'être un mouvement progressiste, travaillant avec la droite, avec la gauche, et ben là, justement, politiquement, ça aurait été un beau signal qu'on aurait
Oui,
envoyé
et avec les
de.
verts.
Pardon?
Et avec les verts.
Mais bien sûr, enfin non, mais j'ai pas cité tout le monde, excusez-moi,
Tout le monde,
je sens bien
oui.
votre côté un peu vert, donc je vais rétablir, donc effectivement, avec les verts, bien sûr, mais non, mais je plaisante, mais oui, bien sûr, avec tout le monde, enfin moi je. Enfin, c'est d'ailleurs un peu ce que disait Emmanuel Macron quand il était en campagne, hein, qu'on doit pouvoir trouver des bonnes idées à droite et à gauche. Et ben là, en l'occurrence, moi, cette idée, j'ai en tout cas eu, c'est pas eu cette idée. En même temps, on me l'a un peu soufflé, mais en tout cas, j'y travaille depuis 3 ans et j'aurais vraiment trouvé que symboliquement, ça aurait été très fort de la part de l'Assemblée nationale de porter et qu'on porte tous ensemble avec les Verts, donc ce message progressiste et ce message d'espoir en fait pour les victimes
Mais ça, c'est
et puis.
plus possible.
Bah, si c'est intégré par voie d'amendement, non, ce sera pas possible. Et ensuite, enfin, apparemment, ça ne doit pas pouvoir se faire de proposer à d'autres groupes d'être co-signataire d'une proposition de loi. Ce que je regrette parce que,
Ah oui,
enfin, je
c'est
pense que des fois,
incroyable.
on peut déroger. Pardon?
Je dis oui, c'est incroyable d'entendre ça.
Ben oui, alors on peut. Alors, il y a des amendements qu'on peut partager, qu'on peut éventuellement faire co-signer par d'autres collègues parlementaires de l'opposition, mais une proposition de loi, apparemment, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on ne pouvait pas la faire co-signer par tous les groupes. Alors, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que
Encore
ça
une
aurait
fois, on a
vraiment
fait
été
évoluer.
aussi. Ouais, enfin, il y en a tellement à faire évoluer que. Oui, ouais, voilà. Ceci
Mais
dit,
c'est
vu le
bien.
temps, en fait, vu le temps qu'on met pour légiférer, je me dis que un seul mandat, en fait, ça suffit pas, quoi. Enfin, j'ai conscience que il y a tellement de choses, parce que c'est pareil. Après, moi, j'ai mon travail parlementaire en circonscription. Enfin, j'essaie de faire avancer les sujets, alors sur le train, sur la santé, sur tout un tas de choses. Et je vois bien qu'en fait, bon, non seulement dans l'hémicycle, il y a beaucoup d'inertie, mais alors en dehors, c'est pareil, hein. Quand on a affaire à la région, enfin, moi, je suis la région Haut-Rhin, donc menée par Laurent Wauquiez, c'est compliqué, hein. On peut difficilement travailler la main dans la main ensemble, alors qu'en fait l'idée c'est de faire avancer les territoires. Enfin voilà, on change de
Oui.
sujet, mais voilà,
Mais non, non, parce que c'est important aussi je trouve, de comprendre quand on est simple citoyen comme moi, et c'est vrai qu'il y a de choses, d'obstacles concrets, pratiques sur le terrain que nous, qu'on ne comprend pas. On le voit en ce moment avec toutes les incompréhensions liées aux décisions prises pour les restrictions sanitaires, avec la culture et tout ça. Il y a un tas de choses que nos responsables politiques n'ont pas, c'est pas forcément de leur faute non plus, mais n'ont pas forcément le temps. Quand ils passent dans un JT, dans les médias, ils n'ont pas forcément le temps d'expliquer tout le fonctionnement.
Le seul moment où on peut l'expliquer, c'est les réunions publiques. Et moi, quand je vais au contact de mes concitoyens, justement, j'aime bien en fait leur expliquer comment ça se passe justement dans l'hémicycle. Oui. Mais pourquoi vous posez pas plus de questions orales ? Ben, c'est parce qu'en fait, voilà, on est un groupe de presque 300, la majorité, et que on y a 6 questions en fait qui sont programmées pour la majorité par semaine. 6 questions pour 300 députés, enfin voilà, donc il faut forcément, on ne peut pas toutes les semaines poser autant de questions qu'on aimerait. Les difficultés, voilà, c'est ça, c'est que le temps politique est très long et que, voilà, il faut aussi parfois accepter le consensus et quand on est dans des compromis, bon, ça demande des négociations, du temps, et voilà, c'est aussi la raison pour laquelle des fois c'est un peu compliqué.
Très bien. Mais en tout cas, un grand merci d'avoir pris de votre précieux temps pour nous expliquer un peu plus en détail. C'est quelque chose qui mérite d'être entendu parce que déjà, ça concerne tout le monde. Je pense que même les personnes qui peuvent ne pas se sentir du tout concernées ne sont pas à l'abri d'avoir dans leurs proches, que ce soit leurs enfants, ça peut être un frère, une sœur. Ça peut être sur un lieu de travail aussi, quelquefois. Ça peut être dans un foyer de migrants aussi. Moi, j'ai vu dans un migrants, et quelquefois on ne sait pas, on pense toujours aux questions économiques ou les guerres pour les migrants. Il y a aussi des sujets qui entrent dans ce que vous avez expliqué aujourd'hui. Il y a certains pays où on peut risquer l'excision, on peut risquer la torture, la peine de mort par rapport à un problème d'identité de genre. Et aujourd'hui en France, c'est encore compliqué de vivre avec une identité de genre qui n'est pas encore communiquée, admise, et voilà, il serait temps, je pense, qu'on accepte que ce n'est pas contre nature, que ça fait partie de la nature. Donc merci de vous battre pour ça. J'espère que ce texte aille jusqu'au bout et sans être trop rogné. Donc très bonne continuation à vous. Merci. Et puis peut-être que nous aurons l'occasion de rediscuter
dans les mois qui viennent
d'autres avancées.
Merci de l'invitation.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.